parler aujourd'hui de cette... On va changer, s'il vous plaît. Oui. De parler donc de la problématique dans l'Arctique. C'est largement fondé, la réflexion que je vais vous présenter aujourd'hui, sur une recherche que je mène, que nous avons menée et que nous menons toujours avec Andrea Charon et Joël Plouffe. Andrea qui est à Carleton maintenant, je pense, oui. Joël qui est à l'ENAP. Donc, en 2012, on a publié une première version de ce texte pour Chris Kirky et Michael Hawes. Et Chris et Michael nous ont demandé de faire une mise à jour. Et on a un problème. Parce que ce n'est pas si évident de penser l'Arctique dans un contexte de multipolarité ou d'unipolarité. C'est un peu ce que je vais vous exposer aujourd'hui, la nature de ce problème et comment on essaie de faire la quadrature du cercle là-dessus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce système régional, de ce sous-système régional? C'est intéressant, c'est une forme de laboratoire dans la mesure où vous retrouvez des caractéristiques qui ressembleraient fort à un monde multipolaire, ou en fait un monde post-hégémonique. D'abord, l'absence des États-Unis. On pourrait dire les États-Unis sont virtuellement sur le terrain, sont absents. Très peu de ressources militaires, je pense qu'un seul brise-glace. Et trouver quelqu'un à Washington qui s'intéresse vraiment à l'Arctique, c'est difficile. C'est un peu moins maintenant que c'est la présidence américaine du Conseil de l'Arctique, mais quand même, pendant des années, on cherchait un interlocuteur à Washington pour nous parler de l'Arctique, et on nous renvoyait toujours en Alaska. C'est là où se passaient les choses. Mais donc, les Américains ne se préoccupaient pas et ne se préoccupent pas beaucoup de l'Arctique. Deuxièmement, vous avez au contraire la Russie qui est très présente en termes de développement de ressources dans l'Arctique, des infrastructures, des ressources militaires et civils qui sont investis. On pourrait dire que la Russie représente jusqu'à un certain point l'hégémone dans la région. Et on pourrait s'attendre donc à avoir une dynamique qui tourne autour de ce leadership de la Russie. Et troisièmement, vous avez la Chine, entre autres. Pas seulement la Chine, je vais y revenir tantôt, mais vous avez la Chine qui manifeste un intérêt pour les questions arctiques aussi, soit seule comme État, soit même jusqu'à un certain point comme porte-parole des États non-arctiques, qui disent avoir un intérêt pour cette région-là. J'aurais pu très bien ajouter l'Union européenne aussi, qui joue ce rôle-là jusqu'à un certain point dans la région. C'est quoi? Quelle est la situation du Canada? En fait, si on résume ça, la situation canadienne, d'avoir un immense territoire, la diapositive suivante, on voit que l'immensité du territoire canadien, donc c'est l'équivalent le territoire arctique du Canada, c'est l'équivalent presque de l'Union européenne en termes de territoire. Et c'est habité par 130 000 habitants. Imaginez-vous l'Union européenne habitée par 130 000 personnes. Et comment on fait pour contrôler un territoire aussi immense que ça? La précédente. Deuxièmement, c'est un territoire où il y a somme toute peu de ressources, mais j'entends de ressources humaines ou de ressources matérielles. Il y a des ressources naturelles, en importance, mais il y a très peu de ressources sur lesquelles le gouvernement canadien peut compter pour assurer sa mission. Très peu d'infrastructures, il n'y a pas de port dans l'Arctique canadien. Très peu d'aérodromes, très peu d'endroits où des avions peuvent se poser. Quatrièmement, c'est un endroit où vous allez retrouver des conflits persistants. Des conflits, et on va... Oui. Next. Oui, OK, suivante. La précédente. Ils sont connus, en fait, des Canadiens souvent, et particulièrement au mois d'août, en fait, pour une raison assez simple, les Canadiens s'inquiètent énormément de la souveraineté dans l'Arctique. Deux conflits en particulier sont significatifs. Deux ne le sont pas du tout. Quand on parle, par exemple, de l'île de Hans ou de la mer de Lincoln, oubliez ça, ce sont des conflits purement symboliques avec le Danemark. Il n'y a absolument rien d'enjeux matériels qui sont liés à ça. Par contre, en mer de Beaufort ou sur le passage du Nord-Ouest, ce sont des conflits beaucoup plus sérieux, mais rien qui ne peut pas être résolu par la négociation. Ce sont des conflits généralement avec les États-Unis, non pas avec la Russie. Le suivant?
Oui. Oui.
Le cinquième conflit, en fait, qui pourrait... Le cinquième conflit qu'on pourrait voir, c'est ceux sur le plateau continental. Et ça touche la Russie. À savoir exactement quels sont les États qui ont un droit exclusif d'usage des ressources qui se trouvent dans le fond marin. Et seulement les recherches se poursuivent pour essayer de déterminer à qui peut revendiquer un droit d'usage exclusif sur les fonds marins dans la région. Et notamment, il y a toute la problématique autour du pôle Nord. Qui peut revendiquer, si quelqu'un peut revendiquer le pôle Nord. Et la Russie, on revendique une grande partie de ses droits en arguant l'existence d'une chaîne de montagnes qui s'appelle la dorsale de Lomonossov et qui pourrait éventuellement entrer en conflit avec les revendications canadiennes. Donc, il y a un certain nombre de conflits qui se poursuivent, donc qui existent dans la région. Avec qui sont ces conflits? D'abord, ils sont avec les États-Unis. Je l'ai mentionné, la mer de Beaufort, surtout sur le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire le statut juridique du passage du Nord-Ouest. Essentiellement, de quoi il s'agit? La position canadienne, c'est de dire que le passage du Nord-Ouest, ce sont des eaux canadiennes dans lesquelles les Canadiens peuvent déterminer qui a le droit de passage et sous quelles conditions. Alors que la position américaine, c'est de dire, celle des Européens, c'est de dire plutôt ce sont des eaux canadiennes, pas de problème, mais elles constituent aussi un détroit international. Et un détroit international peut être franchi par n'importe quel navire qui fait ce qu'on appelle un passage innocent. En fait, c'est donc le statut juridique qui est en cause beaucoup plus que la propriété à proprement parler des eaux. Mais pour les Canadiens, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Même si, en fait, la grande majorité des Canadiens ne mettront jamais les pieds dans l'Arctique, il y a à peine 10% des Canadiens qui sont allés dans l'Arctique. Pourtant, on s'en inquiète énormément. Il y a quelque chose qui vient chercher les Canadiens lorsqu'on parle de l'Arctique. Et en particulier, ces conflits-là. Diapositive suivante. Les Russes. Il y a une crainte à l'égard de la Russie, surtout depuis juillet 2007, au moment où les Russes ont planté ce drapeau en titanium à la hauteur du pôle Nord, ce qui a titillé beaucoup le ministre des Affaires étrangères canadienne. Il y a ces avions russes qui, de temps en temps, viennent faire des incursions et qui tournent à la dernière seconde comme on dit, qui effleurent la souveraineté canadienne du bout de l'aile, mais sans jamais rentrer dans le territoire canadien. Et donc, qui inquiète aussi. En fait, on perçoit la Russie de plus en plus comme une menace pour le Canada dans l'Arctique. Et l'autre, le suivant, la Chine. Certains de nos collègues ont tendance à dépeindre la Chine comme une menace. Bon nombre de ceux qui travaillent sur l'Arctique ne croyons pas à la nature de cette menace. Mais vous avez quand même toute une école de pensée, et ça rejoint ce que Justin Massy disait dans sa présentation, il y a toute une école de pensée pour vous démontrer que la Chine constitue une menace à terme pour la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Même si cette menace ne prend pas une forme militaire, enfin, du moins jusqu'à actuellement. Suivant. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation du Canada ou qu'est-ce que la polarité ou le degré de polarité peut nous enseigner sur le comportement du Canada? Quel est l'impact de cette distribution régionale de la puissance sur la politique canadienne? D'abord, si on prend un point de vue néo-réaliste, ce que Chris Kirky a mentionné dans sa présentation ce matin, donc l'idée de Kenneth Waltz, essentiellement, le néo-réaliste nous enseigne que les États ont deux solutions pour agir face à un déséquilibre de puissance. Faire du bandwagoning, donc c'est-à-dire s'allier avec ce qui constitue la menace ou ce qui constitue le problème. If you can beat them, join them. Et d'autre part, le balancing. Balancing, c'est-à-dire simplement trouver des alliés pour rééquilibrer les relations avec celui qui vous pose un problème. On pourrait dire que la politique canadienne semble obéir logiquement pour aller dans deux directions. D'abord, on pourrait dire qu'on va faire du bandwagoning avec les États-Unis. Si les États-Unis constituent la principale menace pour la souveraineté canadienne en mer de Beaufort et dans le passage du Nord-Ouest, les Canadiens pourraient avoir cette stratégie de s'allier, de s'approcher des États-Unis, d'amadouer les États-Unis, d'offrir quelque chose aux États-Unis pour régler ces conflits ou ces craintes à l'égard des États-Unis. Ou si on dit, par contre, que la Russie ou même la Chine constituent une menace, à ce moment-là, la politique logique du Canada, ce serait de s'allier avec les États-Unis pour faire du balancing vis-à-vis ces deux États-là. Et effectivement, il y a eu de très nombreuses possibilités de coopération bilatérale entre le Canada et les États-Unis dans l'Arctique. Il y aurait, si vous voulez, des opportunités de le faire. Et en décembre 2012, notamment, il y a cet accord qui a été le suivant. Pourtant, ça ne correspond pas au fait. Le Canada ne fait pas ni du balancing, ni du bandwagoning l'Arctique. Il n'y a pas d'approche commune entre le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas eu ce qu'on pourrait appeler une présidence nord-américaine du Conseil de l'Arctique, comme il a existé, par exemple, une présidence scandinave du Conseil de l'Arctique. Ce qu'on entend par là, c'est que la présidence canadienne du Conseil de 2013 à 2015, qui est suivie maintenant par la présidence américaine, aurait pu être établie sur une base semblable où les deux gouvernements s'entendant sur un programme commun qu'ils auraient pu mettre en œuvre sur 4 ans au lieu de 2 ans. Ça ne s'est pas produit. On espérait, on attendait ce que ça se produise, et au contraire, on a vu que les deux gouvernements ont des priorités différentes. Et il y a donc ces conflits, merci, il y a donc ces conflits persistants en mer de Beaufort et dans le passage du Nord-Ouest qui ne semblent absolument pas prêts de se régler d'aucune manière. Suivant. Okay. L'autre possibilité qu'on va énoncer souvent, c'est ce qu'on appelle l'avenue néolibérale. Donc, c'est un peu cette idée de Robert Cohen, after hegemony. Donc, se fier sur les institutions internationales plutôt que sur un rapport de force pour gérer une région ou gérer l'équilibre du système international. On pourrait dire que l'Arctique, c'est une région fortement institutionnalisée, dans laquelle vous retrouvez un certain nombre d'institutions, notamment le Conseil de l'Arctique ou la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui détermine en bonne partie les relations entre les États ou la manière dont on règle les conflits, et plusieurs organisations qui vont même de l'OTAN ou même jusqu'au NORAD qui sont présentes dans la région. Ceci étant dit, on voit aussi qu'au Canada, il y a une tradition d'internationalisme, on l'a mentionné à plusieurs reprises précédemment, où les institutions internationales jouent un rôle important. Ces institutions qui peuvent constituer un contrepoids à l'influence américaine ou, à l'influence des grandes puissances. Et donc, ça serait une voie intéressante pour le Canada. Et ça serait un moyen aussi, si vous voulez, de discipliner ces grandes puissances en les forçant à obéir à certaines règles. Et je vais sauter ici rapidement dans l'espace. Or, ce n'est pas ça qu'on constate encore. La politique canadienne dans l'Arctique, jusqu'à récemment, n'est pas une politique multilatéraliste ou une politique internationaliste. Au contraire, les Canadiens ont plutôt privilégié une voie alternative au Conseil de l'Arctique, qui était pendant un certain temps ce qu'on appelle le groupe des cinq, les cinq États les cinq États riverains de l'Arctique, plutôt que de passer par le Conseil de l'Arctique. Ils ont notamment pris une initiative en 2010 qui semblait aller dans ce sens-là. On s'étonne, pourtant le Canada est l'État fondateur du Conseil de l'Arctique. Voyez, le Canada s'est également opposé, mais il fait beaucoup de réticence à élargir le nombre des observateurs au Conseil. Ça, c'est pour Serge Granger. Ça se maintient qui me demandait où est l'Inde dans. Est-ce qu'il y a une possibilité de coopération entre le Canada et l'Inde dans l'Arctique? Peut-être, mais c'est mal engagé, en tout cas pour l'instant. Donc, ce qu'on a, c'est un internationaliste réticent. Ce n'est pas la politique traditionnelle du Canada que l'on retrouve là. Et c'est là-dessus que je vais conclure mon dernier point. Qu'est-ce qu'on a si on n'a ni du balancing, ni du bandwagoning, ni de l'institutionnalisme? C'est beaucoup plus une approche unilatérale. Ce qui est vraiment étonnant pour un État comme le Canada. Un État, c'est très rare qu'on va voir des dossiers où le Canada va agir comme il agit dans l'Arctique. Donc, beaucoup d'initiatives menées par le Canada pour des questions, à mon avis, soit identitaires ou soit idéologiques. Et, en fait, pourquoi, essentiellement, c'est le point sur lequel je vais terminer, c'est essentiellement, les Canadiens ne semblent pas obéir à une logique qui serait celle de la multipolarité ou de l'unipolarité, mais beaucoup plus pour des considérations identitaires. D'abord, les Canadiens aiment l'Arctique. Ça fait partie de ce que c'est être Canadien. Ça fait partie de l'éthos canadien d'aimer l'Arctique. Même si la grande majorité des Canadiens n'iront jamais dans cette région-là, ils se déclarent massivement en faveur d'une politique pro-Arctique. Et ils le font, bien souvent ici, j'ai un exemple, ils le font ici, ils sont même prêts à prôner une politique unilatérale, avant même de passer par une coopération avec les États-Unis, avant même de passer par les institutions multilatérales. Ils préfèrent, dans bien des cas, ça c'est un des sondages qui a été mené il y a quelques années, préfèrent qu'on mette de l'avant des solutions unilatérales. Et pourquoi, finalement, sur quel point on peut voir ça, l'Arctique devient, si vous voulez, un élément, et ça c'est quelque chose que je répète régulièrement dans mes présentations sur le sujet, la manière de comprendre la politique canadienne de l'Arctique, ce n'est pas en faisant des références à la structure du système international, c'est beaucoup plus en regardant ce que l'Arctique signifie pour les Canadiens. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que les symboles traditionnels identitaires du Canada sont en train d'être remplacés par des symboles arctiques. Vous le retrouvez en toutes circonstances. Donc, le gouvernement canadien, surtout à l'époque de Stephen Harper, on n'a pas pu encore le mesurer jusqu'à présent, utilise de plus en plus l'identité arctique du Canada. Et c'est ce qui expliquerait, à mon avis, beaucoup plus la politique canadienne que toute autre forme de lecture de l'environnement du système international, que ce soit basé sur l'unipolarité ou la multipolarité. D'où le désespoir de Chris Kirky et Michael House quand ils m'entendent, quand ils me demandent de me prononcer sur l'impact de la multipolarité ou de l'unipolarité sur la politique canadienne. Je vous remercie beaucoup. Merci.